Vous écoutez le podcast de Citadelle, le lieu d'accueil et d'accompagnement des femmes victimes de violences à Nantes. Série numéro 3, écouter, agir, ensemble contre les cyberviolences sexistes et sexuelles.
Nous, notre rêve, c'est que tout le monde soit sensibilisé, que les victimes, elles trouvent les solutions facilement, gratuitement. C'est une utopie.
Le but de la prévention, c'est aussi de donner de l'information, de libérer la parole.
Trois filles et deux garçons par classe sont victimes de cybersexisme. Une fille sur six et un garçon sur dix a reçu des textos, photos ou vidéos à caractère sexuel alors qu'il ou elle n'en avait pas envie. Les rumeurs concernent deux fois plus les filles que les garçons. Ces quelques chiffres sont issus de la toute première étude française sur le cybersexisme, menée en 2016 auprès d'établissements scolaires d'Île-de-France, de la 5e à la 2e, par le Centre Hubertine Auclert, centre francilien de ressources pour l'égalité femmes-hommes. Sachez que le rapport complet ainsi qu'une synthèse de cette étude sont accessibles librement et gratuitement sur le site internet du Centre Hubertine Auclert. On y apprend que le cybersexisme, que l'on peut définir rapidement comme les violences qui se déploient en ligne et contaminent l'espace hors ligne, touche majoritairement les filles, mais contribue à imposer les normes de féminité et de masculinité aux filles comme aux garçons. On note ainsi que le cybersexisme réduit les filles à leur apparence physique et vise à contrôler leur sexualité, tout en survalorisant la virilité et la sexualité des garçons. Pourtant, toujours selon cette étude, les jeunes pensent que les cyberviolences sont une fatalité contre laquelle il est vain de vouloir lutter. Enfin, elles et ils affirment que les adultes ne comprennent pas ce qu'il se passe en ligne et qu'ils vont réagir en sanctionnant leurs usages numériques ou leurs comportements sexuels ou amoureux. D'ailleurs, les adultes eux-mêmes déclarent un fort sentiment d'incompétence vis-à-vis des usages numériques des jeunes. Face à ces constats, nous avons voulu apporter notre pierre à l'édifice en consacrant ce deuxième épisode à la prévention du cybersexisme auprès des adolescents et des adolescentes. Pour cela, Clémence Levaux et moi-même, Maude Raffray, nous sommes allés à la rencontre de Résonante, une association nantaise de rayonnement national, partenaire de Citadelle ainsi que du Centre Hubertine Auclert, qui a mis les jeunes au cœur de son engagement contre les violences sexistes et sexuelles. Nous avons pu assister à une séance de sensibilisation scolaire dont le programme comprend un focus sur les cyberviolences. Nous remercions particulièrement Fatih Ndiaye et Manon Lemaitour, toutes les deux chargées de sensibilisation au sein de l'association Résonante, ainsi que les élèves et les deux professeurs de la classe de 3e du collège Marie-Marvin de Bouguenay, présents et présentes ce jeudi après-midi d'octobre. Dans cet épisode, vous entendrez également l'adjudant-chef Arnaud Felin, qui dirige la maison de protection des familles de Loire-Atlantique. Cette unité de gendarmerie spécialisée sur les violences intrafamiliales a été créée début 2021, suite au Grenelle sur les violences conjugales de 2019. Sa principale mission concerne la prévention auprès des mineurs, le plus souvent en milieu scolaire. Vous entendrez également Lisa Gauvin-Driot, cofondatrice de l'association Stop Ficha, une association féministe de lutte contre le cybersexisme, créée suite au confinement du printemps 2020. Elle y est en charge du pôle sensibilisation, intervention et formation.
Tout le monde a Internet sur son téléphone ?
Oui.
Alors, bienvenue à toutes et à tous. De rien. Ça va, vous n'avez pas trop chaud ?
Si.
Il fait chaud. Hein. On va créer un courant d'air après. On va ouvrir les fenêtres là, ce sera mieux. Et je vais ramener un ventilo. Alors, rapidement, je me présente, je m'appelle Fatih. Vous pouvez m'appeler par mon prénom, me tutoyer, il n'y a aucun problème. Moi, je ne vous demande pas vos prénoms, je ne vais jamais les retenir. Et je travaille au sein de l'association Résonante. C'est une association de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et en fait, on fait plein de choses. Et mon second rôle, qui est tout aussi important que le premier, c'est que je suis considérée comme personne de confiance. Je m'explique. Je ne suis pas psy, je ne suis pas assistante sociale, je ne suis pas infirmière, je suis rien de tout ça. Mais par contre, je suis formée à l'écoute des victimes et de leur entourage. Donc si jamais vous avez besoin de dire quoi que ce soit, que vous avez vécu ou des choses dont vous êtes témoin à la maison, à l'extérieur, à l'école, peu importe, vous pouvez tout me dire. Et c'est la même chose pour Manon. Bon, je t'ai présenté à ta place, mais voilà, vous pouvez tout nous dire. Et nous, en fait, notre rôle, il consiste sincèrement à vous aider à trouver des solutions. Et tant que vous n'avez pas trouvé de solution, tant que vous n'allez pas mieux, ben, on reste en contact. Et en fait, on échange à travers Instagram, par SMS, enfin, frame des mails. Vous n'écrivez pas de mail, mais d'accord.
Moi, je m'appelle Manon et je suis chargée de sensibilisation chez Résonante.
Alors moi, c'est Fatih et je suis également l'une des chargées de mission de sensibilisation chez Résonante depuis 2019. Aujourd'hui, on a reçu une classe de 3e de l'établissement Marie-Marvin pour une sensibilisation d'une heure autour de l'exposition « Fais pas genre » qui évoque la question des violences sexistes et sexuelles de façon générale et des cyberviolences et des conséquences sur la santé.
L'exposition elle a été créée en 2020, lors du confinement, parce qu'en fait, c'est là où les violences sur Internet, elles ont totalement explosé, quoi. Enfin, tout le monde était enfermé. C'est là qu'il y a eu... les violences ont énormément augmenté, et notamment en ligne. Et c'est pour ça qu'on s'est concentré sur la création de cette exposition, qui retrace un peu le même schéma que celle sur les violences sexistes et sexuelles, avec toujours l'importance de définir les choses. Et les cyberviolences, on a plein de types différents, que ce soit du stalking, du revenge porn.
Donc là, on va définir quelques formes de violence. Le cyberharcèlement, très rapidement, c'est le fait de mettre des commentaires ou de partager des contenus qui sont malsains ou alors qui désavantagent la personne qui est dans la vidéo ou sur la photo, etc. Et en fait, on la rabaisse sans arrêt. Et même si vous... Alors, le harcèlement, ça peut être ça. Ça peut être moi toute seule... sur vous tous, ça veut dire que toi, je viens sur toutes les publications, je viens tout le temps vous harceler, ou alors ça peut être vous tous une seule fois sur moi. Vous comprenez? Est-ce que vous savez ce que c'est le stalking?
Non.
Non?
Oh, si, je sais.
Ouais.
C'est je sais pas, mais je donne un exemple. Par
ouais.
Exemple, je sais pas, t'as un mec, tu fais un profil et tu regardes presque tous les jours son compte.
Ouais, c'est ça. Bah, en fait,
donc
ce que tu
pistes un peu.
Exactement. Mais en fait, là, ce que tu viens de décrire, c'est du stalking. C'est aussi du catfish. Le fait de vouloir espionner son ou sa partenaire en faisant un faux compte, c'est déjà deux violences interdites. Alors, je sais, vous allez me dire, ouais, mais quand on a un mec ou une meuf, on a envie de voir, on a envie de stalker un peu, voir ce qu'il fait, avec qui il est et tout. OK, mais en fait, juste remplacer votre mec ou votre meuf par votre mère ou votre père, vous allez comprendre que vous n'allez pas kiffer du tout. Vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que vous aimeriez que votre mère, par exemple, elle soit tout le temps sur vos publications, à essayer de comprendre avec qui vous êtes, qui sont vos amis, qui like vos photos? C'est un peu intrusif, non? Mais pourquoi, pareil, vous le faites quand vous êtes en couple?
Et on a aussi ajouté un panneau un peu sur comment se protéger sur Internet.
Manon Lemaitour, de l'association Résonante.
Les réflexes à avoir, etc. Mais on insiste toujours sur le fait que, même en ayant ces réflexes, de toute façon, c'est aux auteurs en fait, de ne pas commettre ces cyberviolences-là. On le rappelle, l'importance de ne pas culpabiliser les victimes de cyberviolences parce que c'est souvent le cas, notamment dans le revenge porn par exemple. Très souvent, ce qu'on entend, c'est bah, pourquoi elle a fait ces photos, elle n'avait qu'à pas faire ça, c'est de sa faute, etc. Mais vraiment pas. Et c'est important de rappeler que c'est à la personne qui partage ces photos-là, c'est elle qui est coupable.
Alors sur la partie prévention, donc nous on intervient à la demande hein, des établissements scolaires surtout.
Arnaud Felin, adjudant-chef de gendarmerie, responsable de la maison de protection des familles de Loire-Atlantique.
Et c'est eux qui demandent, qui décident du sujet qu'on va aborder. Et c'est vrai que typiquement, quand la prévention a débuté en gendarmerie, les gendarmes venaient sur la loi, les stupéfiants, enfin voilà, ce qui était vraiment le domaine régalien des gendarmes. Aujourd'hui, on est plutôt sur tous les usages numériques à risque. Clairement, c'est ce qui est le plus demandé. Voilà. Et dans les usages numériques à risque, il peut y avoir la partie Internet, parce qu'on peut être victime d'escroquerie ou choses comme ça. Mais ce qui arrive très vite et de plus en plus jeune, c'est tout ce qui concerne les réseaux sociaux et le cyberharcèlement. Voilà. Ce qui m'interpelle à chaque fois, puisqu'on est sur le sujet des violences sexistes et sexuelles, quand on aborde les réseaux sociaux, on leur fait faire un exercice sur la base d'une situation entre un jeune homme et une jeune femme où il y a un échange de photos dénudées et le le garçon profite d'avoir les photos nudées pour mettre la pression à la jeune fille pour obtenir plus des vidéos d'elle toute nue qu'il diffuse ensuite. Et sur ce sujet-là, ils sont globalement tous d'accord pour dire que c'est grave. Quand ça se, à la fin, quand la diffusion des images, ils sont globalement tous d'accord pour dire que c'est grave. Par contre, quand on les interroge sur c'est la faute à qui, il y a 95% du temps, la réponse, c'est la faute à la fille. Alors il y a des doutes hein, parfois, mais globalement, ce qui ressort le plus souvent, c'est cette chose-là. Et c'est là qu'on est obligé de leur faire remarquer qu'elle, c'est la victime, qu'elle fait confiance et que sa confiance a été trahie et que celui qui a fait quelque chose d'illégal et d'immoral, c'est le garçon. Voilà, on est obligé de remettre les valeurs dans le bon sens. Et de rajouter qu'en plus, il y a de la loi derrière, puisque à partir de quand, dans cette histoire, ça devient interdit, il y a des choses qui sont interdites. Voilà. Enfin, depuis les quelques années que je fais ça, il y a quand même plus en plus de doutes. Voilà. Peut-être grâce à tout ce qu'on entend aux informations, dans les médias, et même eux, hein, sur les réseaux sociaux, parce qu'il n'y a pas que du mauvais, il y a aussi des influenceurs qui font des choses sur ce sujet-là, et ils ont accès aussi. Donc,
Pourquoi, à votre avis, c'est vous les premières victimes de violences ? Toutes violences confondues.
Ouais. Parce qu'on est naïf,
on pense. Ouais, alors c'est pas le bon terme, je vois ce que tu veux dire, mais vous êtes pas naïf. Ouais.
Parce qu'on est fragile à cet âge-là.
Ouais, en fait, je sais ce que vous voulez dire, mais ce sont pas les bons termes. Tu voulais dire quelque chose ?
On est moins fort physiquement, peut-être, par rapport à la personne.
Alors ça peut jouer, mais c'est pas forcément ça. C'est pas une question de force. En fait, sachez, je le dis maintenant aussi, les victimes. C'est pas que des personnes faibles qui n'ont pas de force, qui n'ont pas de caractère. Ouais.
On est plus vulnérables.
Exactement, bien joué. C'est le terme. En fait, vous êtes vulnérables. Et pourtant, vous êtes le public à qui on en parle le moins.
Alors, en soi, il n'y a vraiment aucun profil type de victime comme d'agresseur ou comme de témoin. Il n'y a vraiment pas de profil type puisque comme on est sur le numérique...
Lisa Gauvin-Briot, chargée du pôle sensibilisation, intervention et formation au sein de l'association Stop Ficha.
Tout le monde peut être victime de ces cyberviolences. Après, évidemment, il y a des schémas et des mécanismes qui reviennent. Donc, quand on parle de cyberviolences, elles vont majoritairement toucher les femmes et les personnes non-binaires, les personnes des minorités de genre, les personnes LGBTQIA+, également les personnes racisées, les personnes qui sont en situation de handicap, etc., etc. Donc, on a vraiment des mécanismes d'oppression et des mécanismes de domination qui reviennent. Ça, c'est clair et net. Donc, nous, majoritairement, enfin, dans notre expérience, en tout cas, les victimes qu'on a pu recevoir jusqu'à maintenant, effectivement, c'est majoritairement des femmes, majoritairement des adolescentes. Même s'il y a les mêmes schémas de domination qui se reproduisent, les cyberviolences ont des caractéristiques qui leur sont propres, et donc oui, des spécificités qui leur sont propres, parce qu'on a notamment notifié trois caractéristiques principales. L'anonymat, bien que l'anonymat soit très important sur le net, il y a aussi toute une part sombre dans le fait que beaucoup de personnes qui subissent des cyberviolences ne connaissent pas l'auteur de ces cyberviolences, et ça pose aussi ensuite problème pour tout ce qui est dépôt de plainte et justice, tout simplement. Donc ça, c'est un problème qu'on peut voir avec l'anonymat. On a également de la participation à ces violences, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment données sur la cyberplace publique, que tout le monde peut y prendre part, même des personnes inconnues de la victime. On a une démultiplication en fait des lieux de violence, on a une démultiplication du temps, parce qu'une fois qu'une cyberviolence ou qu'un contenu est posté sur Internet, qu'une cyberviolence est commise, elle reste sur Internet. Elle ne peut jamais être véritablement supprimée, et donc on a une démultiplication qui peut... qui engendre en fait une violence infinie dans le temps, infinie en termes d'espace, puisqu'elle elle peut se propager partout sur le net, et de nombreuses personnes peuvent en être témoins, peuvent en être autrices. On a également ce qu'on appelle l'effet cockpit, qui est en fait un effet qui a été conceptualisé dans la littérature, qui en fait reprend le principe du cockpit dans l'avion, du pilote dans son cockpit. C'est que l'auteur de l'agression en ligne est éloigné de sa victime, n'a pas sa victime en face de lui, et donc la violence passe plus facilement, ou même la conscience de la violence n'est même pas forcément effective. On n'a pas forcément conscience qu'on commet de la violence, on n'a pas forcément conscience qu'on fait quelque chose qui est réprimandé dans le code pénal ou le code civil.
Pourquoi les victimes, elles ont du mal à parler de ce qu'elles subissent ? Ouais.
Parce qu'elles ont été traumatisées.
Ouais, il y a le fait d'être traumatisée. Ouais. La honte, effectivement. Ouais.
La peur des répercussions.
Exactement. La peur des représailles. La peur de ne pas être crue. Vous savez, vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous voyez un peu tout ce qui se passe, tout ce qu'on peut entendre, etc. Mais en fait, il y a toutes ces raisons-là qui empêchent, entre guillemets, les victimes à dénoncer ce qu'elles subissent. Donc en fait, il faut imaginer que c'est bien plus élevé que les chiffres qu'on a. Et on sait aussi que les premières victimes de violences, ce sont les jeunes. Est-ce que, j'ai une question, est-ce que vous avez déjà eu une intervention sur la question des violences en général dans votre scolarité?
Je crois.
Jamais? Peut-être sur le harcèlement, parce qu'on en parle de plus en plus.
Oui.
Eh ben, moi aussi, en fait, quand j'étais scolarisée, j'ai jamais eu des séances comme ça, alors que, comme je viens de vous dire, les premières victimes de violence, ce sont vous. Et victime, je le dis dès maintenant, c'est pas une insulte. Hein. C'est un statut. Je sais que c'est utilisé comme une insulte. Ouais, t'es un fragile, t'es une victime. Voilà. On se sait. Mais c'est un statut qu'il faut respecter.
Au niveau des conséquences qu'on retrouve sur les personnes qui sont victimes de cyberviolence, peu importe la cyberviolence, mais une cyberviolence sexiste et sexuelle, on va avoir énormément de conséquences physiques, également de conséquences psychologiques. Donc ça peut être tout ce qui est stress post-traumatique, ça peut être tout ce qui est dépression, automutilation, pouvant aller jusqu'au suicide. Mais ça peut également être des choses un peu plus, on va dire, qui vont être moins considéré ou moins pris au sérieux, mais ça peut être l'isolement, ça peut être le refus d'utiliser Internet, ça peut être des troubles de la vie sexuelle, des troubles de l'intimité, des troubles des relations aussi avec les autres, un renfermement sur soi, ça peut être également une hypervigilance, ça peut être du stress, de la nervosité, de l'anxiété, ça peut être également des TCA, ça peut être des troubles de la scolarité aussi, du décrochage scolaire ou du décrochage professionnel. Voilà, ça peut être aussi plein de conséquences, et également des conséquences économiques, notamment payer des frais de justice, payer des frais de santé, déménager aussi des fois, changer d'établissement scolaire. Donc voilà, il faut aussi penser large, que ce n'est pas juste des conséquences psy, ça peut être des conséquences économiques, ça peut être aussi des conséquences physiques. Et c'est ça qu'on cherche à faire comprendre, nous, dans Stop Pichat. C'est vraiment tout ce qui se passe sur Internet, tout ce qui est fait sur le numérique a des conséquences comme si c'était fait dans la vie physique, dans la vie, entre guillemets, réelle. Nous, on dit toujours qu'Internet, c'est la vie réelle, et que tout ce qui se passe sur Internet, les conséquences, elles sont réelles et vraies, en fait, sur les personnes. Et que c'est pas juste un écran, c'est pas juste quelque chose qui n'a pas de conséquences, tout simplement, quelque chose vu que c'est quelque chose qui n'est pas forcément matériel ou quelque chose qu'on voit dans la vie physique, qui se passe dans la vie physique, on pense que on peut minimiser ça, que ça peut être banalisé, que ça peut être des choses que tu fermes ton ordinateur, de toute façon, tu peux mettre fin au cyberviolence, sauf que justement, c'est pas ça, les conséquences, elles continuent également dans la vie physique, c'est-à-dire que quand tu sors des violences numériques, en général, il y a une très très forte interdépendance entre violences numériques et violences physiques, notamment quand on parle de cyberharcèlement, et surtout côté scolaire, c'est que ça va être aussi des violences qui vont se prolonger dans la vie physique.
Et on est de plus en plus sollicité par les équipes pédagogiques pour être formées au mieux sur ces questions-là, parce que je pense qu'il y a aussi une très grande remise en question.
Fatih Ndiaye, de l'association Résonante.
Des équipes pédagogiques, ils se rendent compte qu'ils ont plein de responsabilités. Alors ok, ils sont profs, etc., mais ça reste les adultes qui côtoient le plus, même plus que les parents, les élèves. Donc c'est hyper important qu'ils puissent avoir un minimum de formation, et quand ils accompagnent des groupes, ils se forment aussi indirectement, et très souvent dans un second temps, ou alors en amont, on les forme aussi à quelle posture ils sont censés avoir lorsqu'ils sont témoins de certaines scènes, ou alors quand ils ont des élèves qui viennent se confier à eux ou elles, et voilà, pour leur confort à eux. Et d'ailleurs, après chaque séance, on leur transmet aussi un document, parce qu'on a aussi conscience que, donc il y a les victimes qui nous parlent à nous directement le jour où elles nous rencontrent, et après il y a l'effet qui se coule. Donc moi, ce que j'ai fait, je ne sais pas si vous l'avez vu avec Manon, très souvent à la fin d'une séance, on va voir les adultes, parce qu'il y en a aussi des victimes parmi eux, et des auteurs. Donc il faut aussi, enfin, il faut pas les oublier non plus. Donc on va s'adresser aux accompagnants et on leur rappelle que voilà, il faut pas qu'ils s'inquiètent s'ils reçoivent des témoignages. Nous, dans la foulée, on leur envoie une fiche conseil, comment réagir en cas de témoignage, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut pas dire, quel est votre rôle, à quel moment il faut orienter, enfin voilà.
Quand je rencontre d'ailleurs les jeunes adolescents, adolescentes en...
Lisa Gauvin-Drio de Stop Fisher.
En intervention scolaire, car j'en fais pas mal, je partage beaucoup de guides, et notamment que faire quand tu es victime ou que faire quand tu es témoin. Et il y a vraiment trois mots principaux à retenir. Le premier mot, c'est screener et prendre en capture d'écran toutes les cyberviolences que la personne, enfin que vous subissez ou dont vous êtes témoin. Vraiment tout prendre en capture d'écran, tout prendre en capture vidéo, c'est hyper important pour garder des preuves, vraiment. Ensuite, vous signalez les contenus, très important. Vous pouvez signaler via notre formulaire de signalement qui est accessible via notre page Instagram StopFisha, via notre site internet aussi ou via notre Twitter. Enfin, en dernier, c'est vraiment se protéger, très très important, que ce soit bloquer la personne ou les personnes, que ce soit se mettre en privé, que ce soit s'entourer également, en parler et ne pas s'isoler. C'est vraiment très important, c'est vraiment les trois étapes à retenir quand vous êtes victime et également quand vous êtes témoin.
C'est vraiment ce qu'on répète à chaque fois.
Manon Lemaitour de Résonante.
Et que maintenant vous êtes venue chez Résonante, donc vous connaissez l'association, donc vous n'êtes plus seule. Et on leur rappelle toujours qu'il y a plein de personnes de confiance autour d'eux, que ce soit dans l'établissement, que ce soit potentiellement dans la famille ou pas. Mais quoi qu'il arrive, nous, on sera toujours là. Donc, ils ne sont pas seuls s'ils veulent dénoncer les violences, que ce soit en ligne ou pas, en fait.
On leur rappelle aussi.
Fatih Ndiaye, de Résonante.
Et on aimerait qu'ils puissent, qu'il et elle puissent le retenir. C'est que tout le monde a sa responsabilité sur la question des violences. Encore une fois, s'il y a autant de victimes, c'est qu'il y a beaucoup d'auteurs. Et surtout sur Internet.
Nous, notre rôle à tout le monde, bah, c'est pas d'être des super-héros. C'est juste d'être attentif autour de nous, de regarder si tout le monde va à peu près bien. Vous savez, il y a des choses... Des fois, on se raconte des trucs hyper perso, on se raconte des décès, des trucs qui font mal au cœur et tout. Entre potes, mais on parle jamais de violence. Ça vous est déjà arrivé, vous êtes entre amis et vous posez la question, et toi, t'as déjà été victime de violence? Toi, t'as déjà subi ça? Vous l'avez déjà fait?
Oui.
Ouais, bah, oui. C'est super. Mais c'est très rare. Parce que c'est normal, en fait, personne n'est à l'aise avec ces sujets. Donc, vous, votre rôle, c'est d'aller chercher des adultes. Dans votre établissement scolaire, vous avez plein d'adultes de confiance. Vous avez des profs préférés, vous avez des AED, vous avez une infirmière, j'imagine. Vous avez même des CPE avec lesquels vous vous sentez plus ou moins proche. Et si vous êtes mal à l'aise avec les membres de votre établissement, dans votre vie de tous les jours, vous avez des adultes. Et si dans votre vie de tous les jours, vous n'avez pas d'adultes, vous avez nous. Vous avez vu, je commençais la présentation en disant que j'étais une personne de confiance. Donc, nous, ce qu'on va faire, là, on n'aura pas le temps de faire remplir le questionnaire. On va vous l'envoyer. Je compte vraiment sincèrement sur vous, tout le monde, pour répondre au questionnaire, dire ce que vous avez pensé de la séance, dire voilà, des choses que vous n'avez pas osé dire ou vous n'avez pas eu le temps de dire. Nous, on vous répondra tout le temps. Ça reste anonyme, enfin confidentiel, ça reste entre nous. Et si vous êtes en danger ou si vous avez subi des violences, c'est pas de votre faute. D'accord ? Si vous avez besoin de dénoncer quelqu'un de votre famille parce que quelqu'un de votre famille ou de votre entourage très proche vous fait du mal, c'est pas vous qui détruisez la famille. D'accord ? Si vous dénoncez ces violences, vous avez tout à fait le droit de le faire et il faut le faire. Il faut être aidé parce qu'on peut pas s'en sortir tout seul. Et voilà. Mais sachez que vous n'êtes pas seul, il y a toujours des solutions, toujours. Bon, bah merci beaucoup.
Merci.
Ouais, ça vous a mis un petit coup?
Non.
Non? Bon, bah tant mieux.
Merci. S'il y a des personnes qui veulent me parler, 2-3 minutes, vous pouvez
me parler. Ah, déjà, vous vous sentez comment après cette séance?
Moi, je dirais un petit peu bouleversée.
Un peu bouleversée? Ouais. Et toi?
Perso, je sens que j'ai gagné, que je sais plus de choses et que je vais faire un peu plus attention à comment vont les autres.
Ok.
Je pense que je vais faire plus attention à ce que je dis et à ce que je vois.
Et est-ce que ça vous donne envie aussi d'en parler en famille?
Avant de venir ici, j'ai dit à toute ma famille que j'allais faire une sortie, donc on en entend parler.
je suis donc Joanne Le Billon, enseignante en anglais, et aussi je fais partie du dispositif phare dans notre établissement, donc qui traite de tout du harcèlement. Voilà. Donc, c'est la première fois, la première séance. Avec une classe, ça va susciter entre eux des discussions, voilà, parce qu'il y a eu des échanges assez intenses. Et je pense qu'on va faire un retour sur l'expérience suite à la venue de nos 6 classes. Et c'est vrai qu'une vie de classe, par exemple, pour compléter le questionnaire, ça serait bien. Et je pense qu'on verra aussi sur voilà, si des élèves viennent nous voir et ont des besoins particuliers suite à notre rencontre.
On aimerait que les professeurs, en tout cas les personnes qui accompagnent, retiennent. C'est que eux aussi ont leur responsabilité. Quand ils sont témoins de certaines choses, il ne faut pas qu'ils attendent. Même si c'est difficile, on se rend bien compte qu'on demande beaucoup aux équipes pédagogiques et c'est difficile à mettre en place, mais que voilà, ils ont quand même leur responsabilité et que à partir du moment où ils reçoivent un témoignage, il faut partir du principe que l'élève ne ment pas, ne jamais remettre en question la parole de la présumée victime, et ne pas remettre en question sa parole, ça ne veut pas dire aller attaquer la personne qu'elle accuse. C'est juste la croire et l'aider à trouver des solutions.
Mardi 17 octobre 2023, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. Grâce au plaidoyer et à l'action continue de nombreuses associations comme Stop Ficha, le Centre Hubertine Auclert ou Résonante, des propositions ont été intégrées pour renforcer la prévention auprès des jeunes et de leurs parents en matière de cyberviolence sexiste et sexuelle. On attend maintenant l'adoption définitive de cette loi et surtout, à sa suite, l'octroi des moyens nécessaires pour sa mise en œuvre effective. C'était « Nous, notre rêve, c'est que tout le monde soit sensibilisé », deuxième épisode de « Écouter, agir », Ensemble contre les cyberviolences sexistes et sexuelles, un podcast de Citadelle écrit, enregistré et monté par Clémence Levaux et Maud Raffray. La réalisation et la création sonore ont été assurées par Erel Latimier. Pour aller plus loin, nous vous invitons à découvrir les capsules de Citadelle, un nouveau format audio de moins de 10 minutes pour comprendre une notion ou découvrir un outil. Tous les podcasts de Citadelle sont disponibles sur le site internet de Citadelle, rubrique ressources, et sur vos plateformes d'écoute préférées.